France Inter.
Alors je vais vous donner un masque pour que nous puissions...
Oui, il est magnifique.
Il est magnifique, mais il est surtout pratique. Car comme vous n'avez pas l'habitude de visiter les abeilles, les piqûres risquent d'avoir pour vous des conséquences fâcheuses, en particulier une violente enflure.
Oui.
Il faut simplement ne manifester aucune nervosité, car les grands gestes, et la fuite en particulier, n'aboutissent qu'à déclencher un nombre supplémentaire de piqûres.
En 1949, on portait déjà le masque, mais seulement lorsque l'on s'approchait d'une ruche pour se protéger d'éventuelles piqûres. Des abeilles sociales, on a déjà beaucoup dit. Les hommes s'émerveillent depuis longtemps devant ces vies en collectivité qui s'organisent selon des règles invisibles et perfectionnées. Mais de leur cerveau si sophistiqué dans leurs si petites têtes, on ne savait pas grand-chose jusqu'à de récents travaux. Nous avons en France des spécialistes réputés pour leur fine connaissance des capacités cognitives des abeilles. Julie Carco est neurobiologiste au laboratoire Évolution, Génome, Comportement, Écologie de l'Université Paris-Sud. Elle va nous dire que les abeilles peuvent manier des concepts abstraits, maîtriser le zéro, elles connaissent les couleurs, tout en étant à l'origine de l'exquise saveur du miel.
Les aventuriers sur France Inter.
Bonjour Julie Carco.
Bonjour Fabienne Chauvière.
Alors on va parler de l'organisation sociale des abeilles, un des systèmes de société les plus complexes du règne animal, mais on ne va pas parler de toutes les abeilles aujourd'hui.
Tout à fait, parce qu'il existe alors à peu près 20 000 espèces d'abeilles, et sur ces 20 000 en fait, la plupart sont solitaires, vivent seules, et une toute petite proportion vit en société.
Ce sont surtout les abeilles domestiques qui vivent en société, ou bien
tout
est-ce qu'il y a des abeilles sauvages qui vivent en société ?
Non, en général, enfin, ce sont juste les abeilles domestiques qui vivent en société.
Vous nourrissez une grande passion pour les abeilles, ça vient d'où ?
Tout à fait. J'ai eu la chance de faire un petit stage lors de mon cursus université quand j'étais en licence. Et en fait, je suis tombée amoureuse de ce modèle d'études. C'est vraiment un animal fabuleux. Et puis j'ai continué en doctorat et j'ai travaillé sur d'autres modèles animaux, mais pour finalement revenir sur ce modèle passionnant.
Qu'est-ce qui vous fascine chez les abeilles sociales ?
Alors, plein de choses, mais notamment sa vie en société, comment des dizaines de milliers d'individus arrivent à vivre tous ensemble et à s'organiser aussi bien. Et avec finalement un si petit cerveau, elle arrive à faire des choses fabuleuses.
Et de leur cerveau, vous allez nous en parler dans cette émission. Mais avant ça, j'aimerais bien que vous nous racontiez ce que vous faites dans votre laboratoire.
Alors, on s'intéresse aux capacités de mémoire, d'apprentissage et également aux bases neurales. Comment un si petit cerveau arrive à réaliser des apprentissages si complexes.
Et donc, comment est-ce que vous vous y prenez ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des ruches dans le laboratoire ?
Pas dans le laboratoire, à l'extérieur, sur le campus du CNRS, on a des ruches. Et au sein du laboratoire, on réalise des expériences comportementales. Donc, on peut étudier l'apprentissage et la mémoire. Et également, on fait ce qu'on appelle de l'imagerie cérébrale, un petit peu comme l'IRM chez les humains. Et on arrive à voir dans leur cerveau quelles zones sont activées et quelles sont les bases neuronales de l'apprentissage et de la mémoire. Notamment.
Je sais que vous avez développé personnellement des techniques justement pour faire passer des IRM à des abeilles. Mais avant d'aller plus loin, vous allez nous emmener dans une ruche. Dans une ruche, toutes les abeilles n'ont pas le même travail.
Alors, il y a déjà... Une reine, c'est le seul individu qui est capable de se reproduire, qui assure la descendance, qui pond des œufs et qui assure la descendance. Toutes les autres abeilles, qu'on va appeler les ouvrières, elles sont stériles. Et au sein des ouvrières, en fait, il y a également différentes tâches. Donc les jeunes ouvrières, elles vont réaliser des tâches dans la ruche. Donc les premières tâches vont être des tâches de nettoyeuse. Elles vont nettoyer les alvéoles donc autour de leur lieu de naissance pour faire de la place et pour que la reine puisse par la suite repondre des œufs. Et puis plus elles grandissent, plus elles réalisent des tâches qui vont la faire s'éloigner de la ruche. Donc après les tâches de nettoyeuse, il y a des tâches de nourrice. Donc ça, c'est des abeilles qui vont donner de la nourriture aux larves pour, voilà, pour assurer le développement. Et après les tâches de nourrice, elles grandissent et elles commencent à aller vers l'extérieur de la ruche pour faire notamment des tâches de ventileuse. Donc ça, c'est pour assurer une température homogène au sein de la ruche et puis pour gérer le niveau d'humidité. Et par la suite, donc, elles s'éloignent et elles vont réaliser des tâches notamment de gardienne. Donc ça, c'est pour assurer la défense de la colonie en cas de danger. Alors typiquement, quand il y a un insecte, alors je vais parler du frelon asiatique et parce que en ce moment, c'est hélas un gros problème. Mais voilà, elles vont être là pour défendre la colonie. Et puis, pas seulement que des prédateurs, mais également vérifier que les abeilles qui rentrent dans la colonie appartiennent bien à cette propre colonie.
Vous parliez du frelon asiatique, il semblerait qu'elle commence à développer des tactiques pour se défendre contre le frelon asiatique.
Alors le frelon asiatique est arrivé en Europe il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Donc elle commence à développer des tactiques, mais c'est encore très difficile pour elle en fait. Contrairement aux abeilles asiatiques qui elles vraiment ont des tactiques fabuleuses. Elles peuvent faire des boules autour des frelons asiatiques pour tuer le frelon en augmentant la température par exemple ou en l'asphyxiant. Ça, hélas, nos abeilles européennes n'ont pas encore développé ce type de défense. Ça mettra du temps, certainement.
Julie Carco, vous êtes neurobiologiste et vous vous intéressez aux abeilles. En 1953, il y avait déjà des recherches menées sur les abeilles. Ça se passait au centre de recherche apicole de Bure-sur-Yvette avec Monsieur Lecomte.
Je suis dans le laboratoire de Monsieur Lecomte. Nous sommes en présence d'un appareil curieux. Il se compose d'abord d'une petite cagette de verre où virevoltent quelques abeilles. Ensuite, devant une petite glace, est piqué un leurre, je crois, c'est-à-dire un fragment de coton au bout d'une tige de fil de fer. On déclenche en ce moment l'appareil, le leurre s'agite et on place devant le leurre la petite cagette de verre. Cette expérience a pour but, monsieur Lecomte ?
Eh bien, vous voyez, il y a des abeilles qui attaquent en ce moment. Ce leurre qui est un leurre de laine marron, les abeilles n'attaquaient pas avant que j'ai mis le leurre en mouvement.
C'est juste.
Ce qui vous montre bien que le facteur essentiel, c'est le mouvement. C'est ce que tous les apiculteurs savent, car les novices se font piquer parce qu'ils remuent beaucoup devant une ruche. D'autre part, la couleur joue un très grand rôle. Celui-ci d'un coton marron, c'est certainement ce qui est le plus attaqué.
Quels sont les autres facteurs d'agressivité des abeilles ?
L'odeur joue un très grand rôle aussi. L'odeur de sueur, en particulier l'odeur de sueur de cheval, excite furieusement les abeilles, ainsi que l'odeur de leur propre venin. De même, les facteurs météorologiques jouent un très grand rôle. Par temps orageux, c'est bien connu de tout le monde, les abeilles sont très fortement excitées.
Des expériences menées sur l'agressivité des abeilles en 1953 avec un journaliste qui s'appelait Roger Lamy. Vous ne menez pas ce genre d'expérience, vous ?
Alors nous, on n'étudie pas cette agressivité, mais en l'occurrence, on étudie les composés qui sont émis lors des situations comme ça d'agressivité, notamment ce qu'on appelle les phéromones. Alors les phéromones, ce sont des substances qui permettent la communication au sein d'une espèce. Donc ça, c'est utilisé par de très nombreuses espèces animales. Mais ce qui est particulier chez les insectes sociaux, et en particulier chez l'abeille, c'est qu'elle utilise une très grand nombre de phéromones. Et en l'occurrence, quand il y a un ennemi, elles vont émettre ce qu'on appelle la phéromone d'alarme. Et donc ça, c'est la première abeille qui va détecter le stimulus nocif, par exemple un prédateur, va émettre cette phéromone. Et du coup, ça va entraîner toutes ses congénères à aller attaquer le danger.
Est-ce que c'est ce qui étonne les chercheurs comme vous, cette grande diversité de comportements ?
Tout à fait, c'est fabuleux de voir à quel point elles arrivent à adapter leur comportement à de très nombreuses situations. Et tout ça, c'est basé principalement sur l'utilisation de ces phéromones. Alors, pas que, il y a d'autres modes de communication, mais ça, c'est quand même fabuleux de voir comment elles arrivent voilà, à émettre toutes ces phéromones et à comprendre le message phéromonal, comprendre la valeur biologique de ces phéromones.
Il n'y a pas que les phéromones pour communiquer, on parlera tout à l'heure des autres modes de communication. Mm-hmm. Quelques mots sur la reine encore. La reine vit dans un endroit particulier dans la ruche ?
Alors, la reine est toujours à l'intérieur de la ruche, donc je vous le disais, c'est le seul individu fertile de la ruche, c'est le seul individu qui va pondre, et elle émet ce qu'on appelle une phéromone royale, et ça va permettre d'inhiber le développement des ovaires de toutes les autres ouvrières, et donc voilà, seule la reine va permettre d'assurer la descendance.
Est-ce qu'on peut la reconnaître facilement, la reine, dans une ruche?
Tout à fait, oui.
Quand on s'y connaît.
Voilà, c'est ça. Elle est souvent plus grosse, un peu plus grosse, surtout son abdomen est plus long et beaucoup plus long, plus évasé, voilà.
Elle pond des milliers d'œufs par jour.
Tout à fait, c'est incroyable. Elle arrive à pondre à peu près 3000 œufs par jour. C'est vraiment sa fonction principale. Au tout début de sa carrière, disons, de reine, elle va être élevée, elle va se faire féconder. Alors, pour se faire féconder, c'est un processus un peu magique également. Elle va sortir de la ruche et elle va se rendre dans ce qu'on appelle des congrégations de mâles. Donc, c'est un endroit où il y a plein de mâles abeilles. Et lors de ce, dont on peut parler de bal de la reine, elle va se faire féconder par une quinzaine de mâles, donc dans un endroit où il y a des centaines de mâles. Elle se fait féconder par une quinzaine de mâles. Elle va remplir ce qu'on appelle la spermathèque, donc c'est une poche, disons. Elle va remplir de spermatozoïdes, et comme ça, elle va retourner à la ruche. Et là, plus jamais elle ne sortira de la ruche. Et elle va passer le reste de sa vie à pondre des œufs.
Le reste de sa vie, ça peut durer plusieurs années.
Ça peut durer plusieurs années. Je crois que la championne a atteint 8 ans.
Voilà pour une fécondation naturelle. Mais en 1949, un apiculteur racontait comment une reine pouvait être fécondée de façon artificielle. Écoutez cette description totalement hallucinante.
Comme vous le voyez, l'opération que je pratique en ce moment sous vos yeux est très simple. Pour faire éjaculer le mâle, on lui arrache d'abord la tête. Une partie de l'éjaculation se produit. Et pour la parachever, il est nécessaire d'appuyer sur
l'abdomen. Pourquoi lui arrachez-vous la tête ?
Ben, il a été remarqué que c'était la méthode la plus rapide d'obtenir l'éjaculation à volonté.
Mais barbare et pas naturelle, mais enfin efficace.
Lorsque le mâle est parfaitement mûr, d'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'arracher la tête. Il suffit de le tenir quelques minutes entre les doigts pour que l'éjaculation se produise d'elle-même.
Enfin, l'éjaculation se produit, je la vois sous mes yeux, et la quantité de liquide est imposante.
Cette gouttelette blanche que vous voyez, c'est le sperme. Je l'aspire avec l'extrémité de cette seringue. Il me suffit ensuite, dès que les valves ont été écartées par les aiguilles, d'introduire l'extrémité de la seringue dans les voies génitales de la femelle.
C'est une opération assez facile pour quelqu'un qui est assez exercé comme vous.
Elle demande pas mal de pratique.
Elle demande pas mal de pratique, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit une opération chirurgicale délicate.
Non.
C'est un art.
Oui, si vous voulez.
C'est fabuleux, ça.
C'est fabuleux.
Vous saviez qu'en arrachant la tête du mâle...
Ouais, tout à fait, oui, non. Alors, au sein de notre laboratoire, notamment, on étudie la communication entre les mâles, entre donc, ce qu'on appelle les faux bourdons, donc la communication phéromonale. Et effectivement, parfois, il suffit de les tenir et ils éjaculent.
Voilà. Que deviennent les mâles quand ils ont fécondé la reine?
Alors, le rôle des mâles est très important, puisqu'ils permettent de se reproduire avec la reine. Donc c'est quand même la base de la société. Mais en fait, ça s'arrête là. Leur rôle est très restreint. Donc après être allé dans cette fameuse congrégation pour s'accoupler avec la reine, ils reviennent à la ruche et en général, donc en fait, ils sont pas capables de se nourrir eux-mêmes. Ils se font nourrir par leurs sœurs ou demi-sœurs. Et voilà, en général, ils se font éjecter de la ruche. Ils finissent dehors.
SDF.
SDF, exactement.
Oh, c'est triste.
Est-ce que tu sais que 8 jours ça fait 11 520 minutes à la seconde près. Est-ce que tu sais que les avions planent 10 fois leur hauteur, dit ton mètre près. Est-ce que tu sais que quand les fleurs se fanent, elles nous laissent leur odeur, leur amour, là, ici et tout autour. Est-ce que tu sais que quand le meilleur gagne, la plupart du temps c'est juste à un millimètre près. Je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais. 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 Est-ce que tu sais que de nos yeux coulent des larmes, des fleurs et des pleurs. Je peux pas te dire à la rivière près. Est-ce que tu sais que nous deux doigts poussent des armes, des tonnes et des tonnes. Je peux pas te dire au drame près. Je sais pas si tu essaies. Je sais pas si tu sais. 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 S'éparpille ici, tout le monde ne regarde personne et personne ne voit tout le monde. Je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, et 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 je sais pas si tu sais.
Est-ce que tu sais, on écoutait Gaëtan Roussel.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Des milliers d'individus qui œuvrent ensemble, cela suppose un système de communication sophistiqué. Longtemps considéré comme un mythe, le langage des abeilles est reconnu comme une réalité scientifique. Les abeilles émettent des phéromones, vibrent avec des ailes, se touchent, mais surtout, elles utilisent un langage symbolique unique. La danse.
C'est l'œuvre magistrale de von Frisch que d'avoir compris et expliqué ce système d'information symbolisé qu'est la danse des abeilles. Sans entrer dans trop de détails, disons que la butineuse qui rentre à la ruche après avoir découvert une source de nourriture communique aux autres abeilles des informations relatives à la distance et à la direction de cette source par une sorte de danse dont la figure est un cercle que l'insecte décrit et qu'il traverse par son diamètre avec un mouvement frétillant de l'abdomen.
Il s'agissait d'une causerie de Bernard Dumortier pour l'émission « Connaissance de l'homme sur le langage des animaux » diffusée le 12 septembre 1962. Vous avez déjà vu la danse des abeilles, forcément, Julie Carcot.
Bien sûr, tout à fait.
Racontez-nous ce que vous avez vu.
Alors ça, c'est fascinant. C'est vraiment un langage, qu'on va appeler iconique. Et ça permet, en fait, c'est un autre moyen de communication. Et donc, notamment, là, dans le petit extrait que vous avez diffusé, on parle de Carl von Frisch, qui a notamment obtenu le prix Nobel en 1973 pour la découverte du premier langage non humain. Et donc, ça, c'est fascinant. On voit des abeilles qui reviennent d'une source de nourriture qui est productive. Elles reviennent à la ruche et elles vont indiquer à leur congénère, à leur sœur ou demi-sœur, où se trouve cette source de nourriture. Et donc, pour indiquer cette source de nourriture, elles vont faire une petite danse. Et donc, elles vont frétiller de l'abdomen. Et donc, c'est vraiment un code parce qu'elles peuvent indiquer et la direction et surtout la distance. Donc, il y a vraiment de l'information dans cette danse.
Donc elles peuvent dire exactement où se trouve la source de nourriture.
Tout à fait, donc c'est un code qui est partagé par tous les individus de la ruche. Et donc l'intensité en fait, le tempo de la danse, quelque part, va indiquer la distance. Donc si la source de nourriture est très loin, ça sous-entend qu'il faut dépenser quand même beaucoup d'énergie pour aller chercher cette source de nourriture. Dans ce cas, la danse va être un petit peu lente. À l'inverse, si la source est très proche, donc là c'est tout bénéfice finalement, et bien là la danse va être très soutenue et du coup les congénères qui sont autour vont pouvoir déterminer que la source de nourriture est très proche.
Est-ce que ce langage des abeilles est le même pour toutes les ruches ?
Alors c'est un code qui est partagé au sein d'une espèce. Tous les individus doivent partager ce code pour finalement se comprendre entre eux et c'est vraiment la base de ce qu'on appelle l'intelligence collective.
Voilà donc pour la danse des abeilles, mais les abeilles peuvent aussi vibrer des ailes, se toucher.
Et par là, en fait, elles peuvent également diffuser eh bien, les produits qu'elles ont sur le corps, et notamment les phéromones. Et ça, typiquement, ça c'est vraiment également un mode de communication essentiel pour la vie en société. Et par exemple, je vous le disais tout à l'heure, la phéromone de la reine, la phéromone royale, qui est donc diffusée pour inhiber le développement des ovaires et la fertilité, eh bien, est diffusée notamment comme ça, par contact d'individu en individu.
Vous nous avez expliqué tout à l'heure que les phéromones étaient très nombreuses, qu'il y avait une vaste panoplie en fait. Est-ce qu'on sait tout sur les phéromones des abeilles ?
C'est une très bonne question. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on étudie dans notre laboratoire. On connaît bien les composés chimiques. Donc il y a à peu près une cinquantaine de composés phéromonaux chez l'abeille sociale. Ces composés, on les connaît très bien chimiquement, notamment par le professeur Lecomte, le petit extrait que vous avez diffusé. On connaît également très bien leurs effets comportementaux, alors peut-être pas pour tous, mais pour une majorité. Mais après, ce qui se passe dans le cerveau et comment en fait elles arrivent à décoder, à comprendre la signification biologique, bah ça reste encore à découvrir. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on étudie nous au laboratoire.
Voilà, vous parlez de leur cerveau, et là, c'est votre spécialité. Racontez-nous ce que vous faites exactement.
Alors, en fait, en lien notamment avec les phéromones, on essaye de comprendre quelles zones du cerveau sont activées suite à la présentation de ces phéromones, de ces différents composés, et dans quelles zones l'abeille va comprendre que ça veut dire qu'il y a la reine, ou là ça veut dire qu'il y a des larves à nourrir, et comment après elle va adapter son comportement.
Et vous faites comment ?
Eh bien, alors, principalement de l'imagerie cérébrale, on le mentionnait tout à l'heure, et donc on va présenter différents composés et aller enregistrer l'activité neuronale en simultané suite à la présentation de ces composés.
Il faut que vous nous racontiez un peu mieux. Le cerveau d'une abeille, c'est gros comme une tête d'épingle.
C'est tout petit, ça fait à peine 1 mm³. Le cerveau de l'abeille contient un peu moins de 1 million de neurones, plus exactement 950 000 neurones. Et si on compare par rapport à nous, les humains, on a 100 milliards de neurones, donc 100 000 fois plus.
Le cerveau d'une abeille, c'est gros donc comme une tête d'épingle. Comment est-ce qu'on l'étudie au laboratoire ?
Alors, on visualise en fait l'activité neuronale. Et pour visualiser cette activité neuronale, on va regarder le calcium, parce que ça, c'est un très bon indicateur de quelles sont les zones activées ou pas. Et voilà, et en fait, on présente différents composés olfactifs, notamment les composés phéromonaux, et on voit quelles zones sont activées dans le cerveau.
Qu'est-ce que vous avez fait comme découverte ?
Alors, on a mis en évidence, alors, au sein du laboratoire, notamment qu'il existe des récepteurs très spécialisés, en tout cas chez le mâle, pour les phéromones, alors notamment le composé principal de la phéromone de reine. Et donc une ligne dédiée, c'est comme ça qu'on les appelle, une ligne spécifique pour traiter ce composé et que finalement la sortie comportementale soit très rapide et que le mâle détecte très rapidement la reine pour tout de suite aller se reproduire avec elle.
Et Étudier le cerveau des abeilles, c'est mieux comprendre le cerveau des humains ou ça n'a pas de rapport ?
Alors si, tout à fait, notamment sur le système olfactif, il y a de grandes similitudes et comprendre des grands concepts, même chez des insectes, pourrait apporter beaucoup de compréhension, même sur le cerveau des humains.
Vous n'hésitez pas à parler d'intelligence collective. Est-ce que vous avez compris quelques mécanismes qui font qu'une abeille seule n'arrive pas à grand-chose, mais qu'en groupe, elles réussissent à faire des choses formidables? Est-ce que vous avez compris les mécanismes de l'intelligence collective?
Alors ça, c'est vraiment une question qui est encore en pleine étude. Comprendre comment un individu seul, finalement avec peu d'informations, et arrive à s'organiser en société et à adapter finalement son comportement. Donc ça, c'est vraiment des études beaucoup réalisées donc chez les abeilles, mais également chez les fourmis.
Les abeilles sont très organisées. Est-ce qu'elles apprennent ou bien tous leurs comportements sont-ils innés?
Alors, il y a une part d'inné. Typiquement, la danse, ça, c'est un comportement inné. Elles arrivent à décoder. Mais elles ont des capacités d'apprentissage fabuleuses. Alors, typiquement, lorsqu'elles butinent, elles vont apprendre la forme, la couleur, l'odeur des fleurs. Et elles vont associer ça avec la récompense de sucre. Et donc, c'est comme ça qu'elles peuvent après aller butiner et continuer à butiner les mêmes fleurs et à transmettre également cette information aux autres individus de la ruche.
Dans votre laboratoire, vous leur faites faire des exercices, entre guillemets, vous leur apprenez des choses?
Alors, on peut faire ce qu'on appelle des apprentissages associatifs. Donc là, l'idée, c'est de leur apprendre qu'une odeur, par exemple, ou une couleur, mais c'est encore plus facile avec une odeur, qu'une odeur signifie qu'elle va avoir de la nourriture. Et on sait qu'elles peuvent étirer la langue de manière réflexe quand on leur touche les petites antennes avec du sucre. Et en fait, on voit, si on leur donne plusieurs fois cette odeur, à la fin du conditionnement, elles vont tirer la langue à la présentation de l'odeur seule. C'est ça montre qu'elle a appris. Et donc, on peut étudier comme ça l'apprentissage, les capacités d'apprentissage. Et donc, ça, c'est faisable avec des odeurs, mais également avec des couleurs, avec de nombreux stimuli sensoriels.
Est-ce que vous faites des expériences en relation avec la mémoire?
Alors, elles ont des capacités de mémoire importantes. Il faut se rendre compte qu'une abeille vit en moyenne, je parle d'ouvrière en plein été, c'est une trentaine de jours, eh bien, elles arrivent quand même à créer des mémoires qui vont durer quelques jours. C'est quand même important et on peut tout à fait étudier les bases neuronales, finalement, comment cette mémoire est créée dans le cerveau.
Comment est-ce qu'on étudie la mémoire des abeilles?
Eh bien, alors, on leur apprend quelque chose et après, on peut aller moduler cet apprentissage et le tester plusieurs jours après. Et puis, on peut éventuellement jouer sur les neuromodulateurs, essayer d'étudier quelles substances sont impliquées dans la création de cette mémoire.
Et dans un instant, vous nous direz comment se repèrent les abeilles.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Bzz, 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 bzz. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine. Elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, 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 bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Les abeilles. Mais gare à celui qui s'égare au milieu d'elles par hasard. Il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard.
de l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon. Et dans l'azur elle monte, monte, poursuivie par tous les bourdons. Ça va être sa fête. C'est celui qui la rattrapera qui sera le bourdon papa. Mais tout de suite après il mourra pour avoir donné tout ce qu'il a. Vache d'abeille, si tous les hommes ici-bas devaient mourir à ce moment-là, j'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à deux fois. À d'autres. Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas je dors sur mes deux oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien là, quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Les abeilles. Je demande un peu. Enfin. Allez, à la ruche. À la ruche.
C'était les abeilles de Bourvil.
Les aventuriers sur France Inter.
Le cerveau d'une abeille est gros comme une tête d'épingle. Il comporte moins d'un million de neurones, c'est peu. Mais cela ne l'empêche pas d'accomplir de nombreuses tâches complexes, de reconnaître les couleurs, les visages, les odeurs. Les abeilles sont aussi capables d'apprendre. Alors vous nous avez raconté que vous pouvez entraîner les abeilles. Elles reconnaissent vraiment les couleurs ?
Alors elles reconnaissent les couleurs, pas les mêmes que nous, c'est-à-dire qu'elles voient très bien les ultraviolets. Ça, c'est des choses que nous, on ne peut pas voir les humains. Par contre, elles ne voient pas vraiment dans les lumières rouges. Et notamment, elles utilisent les ultraviolets pour se repérer dans la nature.
Elles peuvent parcourir de longues distances pour un butinage. Est-ce que l'on sait comment elles se repèrent ?
Il y a différents moyens de se repérer, différentes boussoles. La première, c'est la position du soleil. Et également avec ce qu'on appelle la lumière polarisée. Donc même si il y a des nuages devant le soleil, qu'elles peuvent plus se repérer grâce au soleil, elles arrivent à se repérer avec la lumière polarisée. Donc ça, c'est dans l'ultraviolet et du coup, d'où l'intérêt pour elles de voir l'ultraviolet.
Elles ont des boussoles internes ?
Alors, elles ont des boussoles internes, mais elles se repèrent beaucoup avec des repères externes.
Donc, elles arrivent également. Donc, des repères terrestres.
Tout à fait, exactement. À se repérer avec des arbres, des allées. Et elles arrivent à faire des trajets de butinage jusqu'à 10 km. Donc, c'est incroyable. Et c'est surtout que cet insecte doit aller butiner, mais revenir à la même place. Alors que pour d'autres insectes, ils peuvent continuer leur butinage. Il n'y a pas besoin de revenir à la ruche ou à leur nid.
Qu'est-ce qui se passe si une abeille retourne dans une ruche qui n'est pas la sienne ?
Alors, elle ne se fera pas accepter. Je vous parlais tout à l'heure des fameuses gardiennes. Clairement, si un individu revient dans une ruche qui n'est pas la sienne, elle se fera éjecter.
Est-ce que vous êtes capable de distinguer des jeunes abeilles de plus âgées ?
Alors, des très très jeunes... Oui, parce que celles qui viennent d'émerger ont encore un petit peu de poils, un petit poil un peu blanc.
Du duvet,
exactement. Après, une abeille, j'irai entre un jour et 30, non, c'est pas facile.
Écoutez cet apiculteur de 1949 qui présentait sa ruche et qui lui était capable de distinguer les jeunes des plus âgés.
Nous voilà auprès des ruches, nous approchons, nous tout en bavardant.
Vous voyez le bruit extrêmement violent qui produit. Sont particulièrement à craindre les abeilles assez âgées, les vieilles butineuses, elles sont très agressives. Les jeunes abeilles, celles qui viennent d'éclore depuis 24 heures, par exemple, ne piquent pas.
Mais vous ne la reconnaissez pas à l'œil nu ?
Si, je peux reconnaître une jeune abeille qui vient de naître à sa couleur grise et à ses poils, souvent encore adhérents au corps.
Je n'ai pas été piqué.
Ne parlez pas trop vite.
Donc je n'irai pas jusqu'à pousser des petits cris pour impressionner les auditeurs, les auditrices.
Voilà, c'est vrai, les jeunes ne piquent pas.
On peut les prendre avec les doigts sans craindre de se faire piquer. Elles sont toutes douces.
Vous travaillez dans un laboratoire et vous avez des ruches autour du laboratoire. Comment ça se passe quand vous allez auprès des ruches et qu'est-ce que vous allez y faire ?
Alors, souvent, on y va avec une combinaison. On s'équipe. Et bien, c'est quasiment quotidiennement, on va chercher nos abeilles pour réaliser nos expériences. Et puis également, on entretient les ruches. Voilà, faut vérifier que tout va bien, qu'elles ont assez d'apports nutritifs. Voilà, donc on vérifie régulièrement.
Vous les nourrissez avec du miel, du sucre ?
Alors, elles sont capables de se nourrir seules, normalement, à part dans des périodes de grande sécheresse ou voilà. Où on peut éventuellement nourrir un petit peu, mais bon, on évite puisque voilà, une ruche en pleine santé est capable de se nourrir seule.
Est-ce que vous marquez les abeilles comme cela se fait dans certains laboratoires ?
Alors tout à fait, et même au sein de notre laboratoire, on fait beaucoup d'expériences où on a besoin de contrôler l'âge des abeilles. Alors ce que j'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est, enfin si je l'ai mentionné, mais je le répète peut-être, c'est que les ouvrières donc vont changer de tâche au cours de leur vie, et que ça dépend de leur âge vraiment. C'est-à-dire que quand elles sont jeunes, elles font plutôt des tâches de nourrice, proches de la reine, et puis plus elles grandissent, plus elles vont sortir de la ruche. Et donc souvent, on a besoin de contrôler soit l'âge, soit ce qu'on appelle la caste. Et voilà, on va aller marquer ces petites abeilles qui viennent de sortir, qui viennent d'émerger. Et comme ça, on arrive après à savoir quel âge elles ont.
Vous les marquez avec un petit point de peinture ?
Exactement, un petit point de peinture sur le thorax. Et voilà, on sait comme ça que la couleur verte, admettons, correspond à cette date.
Communication des abeilles encore, on a parlé de la danse, on a parlé des phéromones, on a parlé du fait qu'elles se touchent. Elles ont d'autres modes de communication ?
Alors elles peuvent éventuellement communiquer par la vibration des ailes. Donc ça, c'est des choses qui sont moins étudiées parce que plus difficiles finalement à comprendre.
Karl von Fritsch, dont vous parliez tout à l'heure, disait « L'abeille est comme un puits magique ». Plus on tire de l'eau de ce puits, plus on s'aperçoit qu'il y a de l'eau à tirer. Est-ce que vous avez, vous, en tant que chercheuse, ce sentiment également que plus vous en découvrez sur les abeilles, et plus il y a de choses à découvrir
J'ai
encore ?
J'ai tout à fait ce sentiment. Plus on en découvre, plus on s'aperçoit qu'il y a tellement de choses à comprendre, et c'est ce qui fait en fait la magie de cet insecte, je pense.
Avec quelles questions pour vous ? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment trouver ?
Idéalement, comprendre comment elle arrive à aussi bien s'organiser et à, pour un petit insecte, à essayer de décoder ce qu'elle doit faire à ce moment précis et ce qui fait qu'après, elles ont ce qu'on appelle l'intelligence collective, comment la ruche arrive à s'auto-organiser.
Donc ça fait partie des grandes questions.
Exactement, des grandes questions que beaucoup de laboratoires actuellement étudient.
Beaucoup de laboratoires travaillent sur les abeilles.
C'est un modèle qui est facile à étudier en laboratoire. Et puis, on le disait, hein, c'est un modèle fascinant. Donc, beaucoup de laboratoires étudient l'apprentissage, la mémoire et puis également cette auto-organisation.
On dit que les abeilles sont capables de reconnaître les gens qui s'occupent d'elles. Est-ce que vos abeilles, pensez-vous, vous reconnaissent ?
Alors, comme on est tous en combinaison, elles doivent certainement voir régulièrement des gens en combinaison, elles ont peut-être appris nos odeurs, c'est possible. Et on essaye dans tous les cas de les manipuler avec le plus de douceur possible. Donc, il est probable qu'elles aient appris qui venait les voir régulièrement.
Dans votre laboratoire, vous étudiez principalement ce qu'on appelle les abeilles domestiques. Est-ce que vous pouvez être amené à étudier d'autres espèces d'abeilles et est-ce que vous pouvez être amené à faire des comparaisons ?
Tout à fait. Donc, au sein du laboratoire, on essaye d'avoir vraiment une approche évolutive. Donc là, l'idée, c'est de comprendre comment l'abeille domestique, qu'on appelle Apis mellifera, alors utilise toutes ses phéromones et arrive à vivre en société. Mais ce qu'on fait beaucoup au laboratoire, c'est d'essayer de comparer avec d'autres espèces d'abeilles, d'essayer de voir si elles
des abeilles solitaires ?
Alors non, plutôt des abeilles également sociales, mais on peut tout à fait comparer avec d'autres hyménoptères solitaires, des abeilles solitaires, et essayer de comprendre, alors en parlant de la socialité, hein, mais quelles stratégies les autres abeilles ont mis en place pour vivre en société. Est-ce que c'est les mêmes phéromones ou pas ? Est-ce qu'elles utilisent les mêmes stratégies pour vivre en société ?
Le secret de la vie en société, ça vient des phéromones ?
Alors, pas que. Mais beaucoup quand même. Et puis également enfin, les variations d'hormones qui font qu'il y a cette division du travail. C'est un ensemble de facteurs vraiment qui permet cette vie en société.
Evolution of change, the pulsate, the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gather thicker than soldiers, lie that don't fret, cause it ain't over yet. By the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight, because the darkness will be over by the end of the fight. Without any fear, jealousy, things that cause casualty to your soul.
C'était Curtis Harding, Hopeful.
Les Saventuriers, sur France Inter.
L'abeille véhicule une image positive auprès des hommes depuis des millénaires. L'importance des abeilles dans le développement des sociétés humaines n'est pas seulement économique et écologique, il est aussi symbolique. On peut dire ça, Julie Carco.
Tout à fait. Alors, je pense que la ruche d'abeilles véhicule de nombreuses valeurs, comme le travail. C'est une société travailleuse. Et puis, ce travail, surtout en société, en fait, en collaboration. Je pense que ce qu'on aimerait, nous les humains, un peu plus, en fait.
Chez les fourmis, qui sont aussi des insectes sociaux, il y a beaucoup d'insectes oisifs. Est-ce qu'on connaît la même chose chez les abeilles ?
Non, pas vraiment. En général, à part les mâles, alors pas oisifs, disons qu'après la reproduction, voilà, ils font plus grand-chose. Mais sur les ouvrières, non, tout le monde a sa tâche. Il y a peut-être une certaine variabilité, mais en général, tout le monde travaille.
À propos des ruches, voici ce que disait Fénelon au XVIIe siècle. C'est une lecture de Fanny Leroy.
La reine des abeilles s'adresse à un jeune monarque. « La vue de nos ouvrages et de notre conduite vous réjouit, mais elle doit encore plus vous instruire. Nous ne souffrons point chez nous le désordre ni la licence. On est considérable parmi nous que par son travail et par les talents qui peuvent être utiles à notre République. Le mérite est la seule voie qui élève aux premières places. Nous ne nous occupons, nuit et jour, qu'à des choses dont les hommes retirent toute l'utilité. Puissiez-vous un jour être comme nous et mettre dans le genre humain l'ordre que vous admirez chez nous. Fénelon, fabuliste du XVIIe siècle.
C'est vrai qu'une ruche, ça a l'air très bien rangé.
C'est, je pense, un des endroits les plus organisés et propres. Toutes les cellules se ressemblent. Et même si, si on les laisse construire naturellement, elles auront, les alvéoles auront toute la même taille, la même forme. C'est incroyable.
Alors, les abeilles nous sont bien utiles. Elles nous donnent du miel et elles sont indispensables pour polliniser 80% de nos
cultures.
Tout à
fait. Alors, il y a cette phrase, notamment d'Einstein, qui dit que sans les abeilles, eh bien, on ne pourrait plus manger ni fruits ni légumes parce que cette pollinisation est assurée. Alors, je tiens à préciser, c'est vraiment pas que par les abeilles domestiques.
Toutes les abeilles, y compris voilà, les abeilles solitaires.
Tout à fait, exactement. Alors, évidemment, on met beaucoup la lumière sur les abeilles domestiques, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment une biodiversité et de très nombreuses abeilles solitaires assurent la pollinisation également.
Quel est le principe de la pollinisation?
Eh bien, une abeille qui va dans une fleur pour elle prendre soit le pollen, soit le nectar, va aller visiter plusieurs fleurs et ainsi elle va porter sur son corps eh bien, le pollen qu'elle va aller emmener à une autre fleur et ça assure ainsi la fécondation de la plante.
Et les abeilles sont assez menacées en ce moment, victimes du varroa, du frelon asiatique, des maladies.
En effet, c'est un problème multifactoriel. Alors, il y a évidemment les pesticides, l'utilisation des pesticides. Donc ça, c'est une grande question.
Qui les fragilise.
Mais pas que, en fait. Il y a le problème des prédateurs, des nouveaux prédateurs, comme le frelon asiatique. Donc ça, c'est notamment au laboratoire, on étudie comment le frelon asiatique arrive à détecter et à percevoir les odeurs. Peut-être essayer de comprendre comment ils arrivent à détecter les abeilles. Et puis, il y a également aussi le problème des monocultures. C'est vrai que là, de plus en plus, dans le monde dans lequel on vit, on fait des grands champs. Et ça, c'est pas bon. Ce serait pas bon pour nous de manger toujours la même chose. Bah, c'est pareil pour les abeilles. Voilà, donc c'est des problèmes multifactoriels qui sont ce qu'on appelle synergiques, c'est-à-dire que c'est pas simplement l'ajout de deux problèmes qui vont donner un résultat, mais c'est l'ajout de ces deux problèmes vont donner un résultat encore plus grand.
Racontez-nous l'attaque d'une ruche par un frelon asiatique. Comment ça se passe?
Alors, les frelons asiatiques font ce qu'on appelle du vol stationnaire devant les ruches. Puis souvent, ils ne sont pas seuls, il y a plusieurs frelons. En fait, ils attendent et ils prennent les abeilles qui sortent de la ruche. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont prendre principalement le thorax des abeilles pour nourrir leurs larves. Et voilà, et donc ils restent en fait juste devant la ruche. Et les pauvres abeilles qui, elles, sortent pour aller butiner, eh bien, se font attraper comme ça en vol.
Et pour le moment, elles ne se défendent pas?
Je pense qu'elles essayent, souvent, elles se mettent à l'entrée de la ruche, elles essayent de défendre l'entrée. Mais ça reste difficile pour elles, surtout quand les frelons sont beaucoup.
Vous nous avez expliqué que les abeilles ont de la mémoire, que les abeilles peuvent apprendre, que les abeilles reconnaissent les couleurs. Les abeilles ont aussi un nez très fin.
En fait, le nez des abeilles, ce sont les antennes sur lesquelles sont ce qu'on appelle les récepteurs olfactifs. Et donc, ces antennes leur permettent de sentir le monde et d'arriver à détecter des milliers de molécules olfactives.
C'est pour ça que les phéromones ont tant de succès au sein de la ruche.
Et exactement, elles ont un système olfactif très développé, notamment pour traiter ces phéromones.
Et cet odorat des abeilles, on peut s'en servir pour détecter les explosifs. Extrait du journal de Trésor de France 2 de mars 2010, un sujet signé Jacques Cardoz et Stéphane Guillemot.
Ne la craignez plus, elle pourrait devenir notre meilleur allié, notre nouvelle arme antiterroriste, car l'abeille dispose d'un odorat plus efficace qu'un chien. Pour cela, il faut d'abord l'entraîner. 10 minutes suffisent pour qu'elle associe une substance toxique à de la nourriture. L'explosif devient alors une drogue et l'abeille réagit systématiquement en sa présence.
Un chien dressé pour détecter de la drogue, par exemple, peut facilement être distrait par une odeur parasite, comme de la nourriture dans ses bagages. Les abeilles, elles, ne sont pas distraites dans ce cas-là, car leur réaction relève davantage du réflexe. Quand vous entraînez l'abeille à tirer sa langue au contact d'une substance donnée, vous la maintenez à une sorte de machine avec un faisceau lumineux. Et quand elle tire la langue, cela brise le faisceau et donc donne une alerte.
Ça ne vous étonne pas du tout, ça?
Alors, je vous le disais tout à l'heure, en laboratoire, on réalise ce type d'association, de conditionnement, voilà, où on associe une odeur avec une récompense de sucre. Et ça, elles le font très bien, elles l'apprennent très vite. Et en effet, il y a de nombreux chercheurs qui ont essayé, voilà, d'apprendre, par exemple, des odeurs d'explosifs ou des odeurs de stupéfiants. Et l'abeille, de manière réflexe, va répondre à ces différentes odeurs.
Malgré leur vie très courte d'une trentaine de jours.
Elles ont des capacités incroyables et elles apprennent très très vite ce type d'association. C'est ce qu'en fait, ce qu'elles font dans la nature. Quand elles vont sur une fleur et qu'elles vont butiner, eh bien elles apprennent l'odeur de la fleur avec la récompense du nectar. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on remime en laboratoire.
Julie Carco, vous nous avez raconté les abeilles sociales. Il y a combien d'espèces d'abeilles domestiques en Europe?
Principalement une. Alors, il y a différentes sous-espèces, mais principalement Apis mellifera. Il y a d'autres espèces dans différents
Quand on
pays.
Parle de l'abeille noire, c'est une espèce différente ou c'est une sous-espèce?
C'est une sous-espèce d'Apis mellifera. Et c'est vraiment l'espèce, je dirais, endémique de la France, de nos régions.
On arrive à la fin de l'émission, Julie Carco. C'est vrai que les abeilles savent compter?
Alors, ce sont des travaux menés récemment dans une équipe, notamment de Toulouse, par Aurora Vargas et Martin Jurfa, qui ont montré que les abeilles arrivaient à apprendre alors ce qu'on appelle des apprentissages abstraits. Donc ça, ça avait déjà été montré il y a quelques dizaines d'années. Mais des travaux voilà, récents ont montré qu'elles arrivaient à apprendre ces concepts. Et par exemple, si on leur montre une image avec deux... Enfin, ou peu importe le nombre d'individus ou d'items, on leur apprend à après choisir l'image où il y a toujours un item en plus.
Donc elles sont capables de comprendre plus,
exactement.
Moins, en dessous.
Exactement, ça ce sont des apprentissages abstraits. Et on ne pensait pas en fait jusqu'à il y a quelques années ou quelques dizaines d'années que c'était possible pour un insecte. On pensait de manière, je pense, très présomptueuse que c'était que pour les humains. Et finalement, voilà, on a mis à jour... ce type d'apprentissage chez un insecte, chez l'abeille.
Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir chez les abeilles et sur le fonctionnement de la ruche.
Voilà, et c'est pourquoi maintenant on essaye de comprendre comment avec un si petit cerveau, elles arrivent à créer des apprentissages aussi complexes.
Julie Carco, on n'a pas parlé du miel. Lorsque les abeilles font du miel, ce n'est pas pour les humains.
Non, ce n'est pas pour nous. C'est pour elles. En fait, ce sont des réserves pour l'hiver, pour que la colonie subsiste. Et donc, elles font ça voilà, quotidiennement. Elles amassent le nectar pour créer le miel.
C'est pour ça que les apiculteurs laissent du miel pour qu'elles puissent passer l'hiver.
En effet, normalement, on laisse une grosse partie du miel dans le corps de ruche et en fait, on récupère le miel dans le haut de la ruche, simplement.
On confond parfois les abeilles et les guêpes. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais quand on a un œil mal exercé, on peut les confondre.
Alors, en effet, l'abeille et la guêpe sont physiquement pas pareilles. Une abeille, c'est plutôt marron, une guêpe, c'est très jaune. Et vous verrez que l'abeille est pas agressive. Alors après, c'est si on l'embête pas, si on va pas l'embêter dans sa colonie. Mais une abeille qui butine viendra pas vous piquer comme ça. Une guêpe non plus, mais en tout cas, une guêpe est plus agressive que les abeilles. Une abeille ira jamais piquer comme ça alors qu'elle est en train de butiner.
L'abeille, on la reconnaît donc à sa couleur un peu marron.
Elle a une couleur marron, à l'inverse d'une guêpe ou d'un frelon qui sont vraiment jaunes et noirs. L'abeille est beaucoup plus marron et beaucoup plus jolie.
J'ai l'impression que vous avez une certaine tendresse pour les abeilles.
J'ai une tendresse, c'est certain. C'est un modèle d'étude fascinant et qui, je pense, continuera de fasciner les étudiants dans le futur.
Merci Julie Carco.
Merci à vous.
Et pour en savoir plus sur le travail de Julie Carco, nous avons mis un lien sur la page des Saventuriers. Les Saventuriers, une émission réalisée par Stéphanie Texier avec Fanny Leroy. Merci à Stéphanie Place de l'INA pour la documentation et les archives et à Djoubaka pour la programmation musicale. Cette émission est disponible en podcast, bien sûr, comme toutes celles de cette série estivale consacrée à l'intelligence du vivant. La semaine prochaine, une plongée merveilleuse avec François Sarano, qui sait mieux que personne parler du monde des cachalots.